Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Ici Philippe Corbet, bonjour, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode ce matin depuis Avignon, dans le Vaucluse, où Marine Le Pen a tenu hier soir une réunion publique, une des deux réunions publiques qu'elle organise dans cet entre-deux-tours important pour elle, puisqu'elle espère cette fois-ci, contrairement à 2017, accéder à l'Elysée. Et dans cet épisode, nous revenons avec Loïc Besson, qui a suivi toute la campagne de Marine Le Pen, et Léopold Audebert, qui jusqu'à présent suivait la campagne d'Éric Zemmour. Nous revenons sur ce discours de Marine Le Pen dans lequel elle a essayé de rassurer les Français et de mobiliser un front anti-Macron pour espérer accéder à l'Élysée dans maintenant quelques jours, puisque comme nous sommes le vendredi, je vérifie la quelle date on est, vendredi 15 avril, ça veut dire que nous sommes à 9 jours du second tour de la présidentielle, 9 jours du choix des Français. Salut à tous les deux.
Salut.
Alors nous sommes dans la même ville, à Avignon, mais je suis de l'autre côté du Rhône puisque nous sommes en train de faire une partie de l'émission de Maxime Switek en direct depuis les berges du Rhône avec derrière nous le pont d'Avignon. Et donc vous entendez peut-être d'ailleurs le camion satellite de BFM TV qui est juste derrière nous, c'est un cadre magnifique. Vous êtes de l'autre côté en ville, c'est ça?
On est dans le centre-ville, je ne sais pas où exactement parce que je suis très mauvais.
C'est l'heure de dîner.
Ouais, voilà.
D'accord, on interrompt brièvement votre dîner, juste pour faire on n'a pas eu le temps trop de reparler de ce discours de Marine Le Pen qu'on a diffusé en direct sur BFM TV. Toi Loïc, tu suis la campagne de Marine Le Pen depuis plusieurs mois, toi Léopold, tu as suivi celle d'Éric Zemmour, donc tu viens seulement de te raccrocher et de venir prêter main forte à Loïc. Donc vous avez deux regards très très différents sur ce meeting d'entre-deux-tours. Loïc, toi, qu'est-ce qui t'a frappé dans ce discours?
C'était un discours assez punchy, peut-être l'un de ses plus punchy, où le message était clair, c'était de marquer la différence entre sa candidature et celle d'Emmanuel Macron. Ça, c'est ce qu'elle avait toujours voulu faire dans cette campagne, même bien avant le premier tour, instaurer ce duel. Mais disons que là, elle l'a marqué au fer rouge très particulièrement, avec des mots assez forts. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'elle est revenue à quelque chose qu'on n'entendait plus beaucoup ces derniers temps, qu'elle employait beaucoup en 2017 et qui pouvait peut-être nous sembler d'un autre temps au vu de l'évolution de Marine Le Pen. C'est le côté la caste,
l'oligarchie,
le bloc élitaire, l'oligarchie contre versus la version à elle qu'elle propose. Enfin, c'est en tout cas comme qu'elle a présenté les choses.
Oui, c'est ça. Et toi Léopold, qui arrive avec un regard plus neuf, puisque tu n'avais pas assisté à un seul meeting de Marine Le Pen, qu'est-ce qui t'a frappé?
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que ce discours qu'on a entendu là parle vraiment quasiment exclusivement de pouvoir d'achat. Et j'étais assez surpris que le thème de l'immigration soit quasiment éludé, en fait, pendant ces 50 minutes, je crois, ou une heure de discours, je ne sais plus. Ça m'a vraiment frappé, et ce qui me frappe aussi en ayant parlé avec pas mal de militants dans la salle, c'est que vraiment les personnes qui sont là ont des attentes extrêmement fortes sur le prix du carburant, sur le fuel, sur le prix de la vie quotidienne, là où chez Éric Zemmour vraiment c'était pas forcément vraiment le cas. Et j'ai vu en fait dans cette salle ce qu'Éric Zemmour n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire qu'il parlait tout le temps de cette union entre je cite les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Et ces classes populaires, moi c'est la première fois que j'entends des sons comme ceux qu'on a recueillis là en interview qui sont aussi concrets. Il y avait aussi évidemment une sociologie extrêmement variée dans ces meetings, mais pas vraiment aussi forte que ce que j'ai entendu là, et ça me frappe vraiment beaucoup.
Et pour compléter ce que vous disiez, moi j'ai parlé avec pas mal de gens avant et après le discours, des gens souvent jeunes d'ailleurs, qui venaient du Vaucluse, mais parfois d'assez loin, de Montpellier, de Carcassonne, de la Drôme, du Nord, du Beaujolais, d'un peu partout. Et j'ai croisé donc des gens qui avaient voté Marine Le Pen, qui avaient déjà voté Marine Le Pen en 2017, mais aussi des nouveaux convertis qui ont voté pour la première fois Marine Le Pen cette année. c'est aussi des gens qui ont voté Éric Zemmour au premier tour, des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui étaient venus écouter avec curiosité ce que pouvait dire Marine Le Pen, des abstentionnistes. Vraiment, et j'étais frappé par la curiosité de ces gens-là qui venaient. C'était pas que des. Parce que parfois, des meetings, c'est que des gens déjà convaincus. Là, c'était pas le cas. Il y avait des gens qui venaient vraiment, au fond, se dire: est-ce que je peux aller voter Marine Le Pen la semaine prochaine? Est-ce que je peux choisir cette femme pour être président de la République pendant 5 ans? Et en ça, déjà, je pense que c'était déjà une réussite pour Marine Le Pen de pouvoir faire venir un rassemblement aussi important, non pas seulement des quarts de militants, il y en avait, mais aussi des nouveaux venus. Après, je me fais l'avocat du diable, mais. On a évoqué ça en plateau juste après l'émission, notamment avec Thierry Mariani, qui est un ancien ministre UMP et qui est maintenant un député européen Rassemblement National.
Qui est notre voisin de table, accessoirement, ce soir.
Absolument. Absolument. Nous avons croisé d'autres élus Rassemblement National de ce côté-ci du Rhône. Et ce qu'on se disait, c'est: est-ce que, au fond, en jouant comme cela, l'apaisement, rassuré, prolonger au fond sa campagne de premier tour, sa stratégie, ne pas mettre sur la table des sujets trop éruptifs ou des sujets qui pourraient faire polémique. Est-ce qu'au fond, le risque, ce n'est pas de... en ne prenant pas de risque, au fond, comment est-ce qu'elle va passer de 9 millions de voix du premier tour à 18 millions de voix qui sont nécessaires pour gagner la présidentielle? Est-ce qu'au fond, elle ne risque pas d'être un peu courte pour aller chercher des électeurs qui n'avaient jamais voté pour elle et dont elle a absolument besoin si elle veut être élue dans 10 jours. Voilà, c'est la limite que je vois dans ce discours et même dans sa stratégie d'entre-deux tours.
Bah, forcément, il y a un risque, mais en même temps, ce risque, elle l'a pris depuis des mois en faisant ce pari-là de la campagne pouvoir d'achat, de la campagne chiante, comme elle le définit elle-même. Il se trouve que jusqu'à maintenant, ça lui a réussi puisqu'elle a été qualifiée au second tour malgré les doutes de beaucoup, y compris dans son camp. Et donc l'idée, bah, pour elle, c'est de poursuivre dans cette même ligne. En sachant que elle sait qu'elle n'est pas favorite, clairement, elle est lucide là-dessus, mais elle dit que ça peut passer et que si ça passait, bah, ça serait une victoire très très serrée. Ça ne serait pas une victoire avec triomphe. Mais elle fait ce pari-là. Alors oui, elle ne fait pas spécialement le pari d'engendrer un élan populaire, de donner une grande envie. Mais elle fait le pari que sa constance, la constance de sa stratégie, et en fait ce qu'elle dit moins, mais le pari qu'elle fait, et on l'a encore vu ce soir dans son discours, le pari c'est le rejet d'Emmanuel Macron, c'est là-dessus qu'elle mise.
Oui, c'est ça. Oui, parce qu'au fond elle dit, elle a dépeint, il y a eu des mots assez durs sur Emmanuel Macron, bon c'est pas la première fois, mais assez sévères, et elle essaye de constituer un bloc, puisqu'elle a utilisé le mot bloc, un bloc anti-Macron, un bloc contre le système, un bloc contre les élites, un bloc contre tout ce que une partie des Français qui ont voté, par exemple Jean-Luc Mélenchon, ou qui se sont abstenus, voilà, des thèmes qui peuvent résonner au-delà de son électorat. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'a frappé. Enfin, toi, Léopold, t'as fait beaucoup de meetings d'Éric Zemmour, qui rassemblait beaucoup de monde. T'as déjà fait des meetings bien plus importants en nombre de participants,
absolument,
que celui de ce soir. Est-ce que on sentait parfois dans certains meetings d'Éric Zemmour une électricité dans l'air, une sorte d'élan, d'enthousiasme, quelque chose un petit peu de communion collective? Est-ce que t'as ressenti la même énergie ce soir dans le meeting, au-delà des Marine présidente, on va gagner? Est-ce que ça a senti quelque chose dans la salle?
Bah alors c'est vrai que c'est très différent, et c'est vrai qu'on ne pourra pas retirer à Éric Zemmour le fait d'avoir rassemblé pendant cette campagne parfois des nombres impressionnants de personnes. On peut rappeler par exemple le Trocadéro. Alors il parle de 100 000, mais on est plus à 50 000 personnes à peu près, mais c'était quand même énorme. On l'avait souligné d'ailleurs déjà à l'époque pendant l'émission qu'on avait fait là-bas. Là c'est vrai que c'est des salles qui sont un peu plus petite pour moi par rapport à ce que j'ai connu dans cette campagne. Donc là on est à 4000 personnes. De ce que j'ai compris en ayant parlé avec Loïc, il y a quand même une évolution dans l'ambiance des salles, qu'auparavant il n'y avait pas cette électricité qu'on a pu ressentir là. J'ai quand même ressenti personnellement une sorte de tension qu'il y a pu avoir dans certains meetings d'Éric Zemmour à des moments où il était notamment très haut dans les sondages. Donc je sais pas ce que t'en penses Loïc, mais j'ai quand même ressenti quelque chose moi là tout à l'heure.
Ouais, on l'avait ressenti la première fois il y a une semaine, juste avant le premier tour, son dernier meeting avant le premier tour à Perpignan. C'est là que c'est vrai que c'est la première fois qu'on voyait une salle autant aussi surchauffée. C'est vrai qu'on a retrouvé un peu ça là, parce que déjà elle est au second tour, donc les choses deviennent plus sérieuses pour les militants, et que même si encore une fois elle n'est pas favorite, le résultat reste très serré dans les différentes enquêtes d'opinion pour le second tour. Donc en fait, vraiment, toute cette ferveur, elle tient quand même à l'espoir d'une victoire parce que les sondages sont bons. Et Loïc, le discours de Marine Le Pen n'a pas franchement évolué, mais c'est vrai que la ferveur des militants, leur mobilisation, elle dépend vraiment, vraiment des sondages.
Il y a un thème aussi qu'elle a, elle n'a pas fait des longueurs là-dessus, mais qu'elle a abordé dans son discours, au fond, le changement, la crispation qu'elle ressent depuis le soir du premier tour. Elle dit qu'il y a une forme de paranoïa qui se développe sur la possible victoire de Marine Le Pen. Elle semblait dénoncer, sans citer telle ou telle cible, j'ai cru comprendre entre les lignes que notamment, notamment les médias, qu'elle pense d'une certaine manière que les médias sont plus durs aujourd'hui avec elle qu'ils ne l'étaient la semaine dernière avant le premier tour. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ? Nous, on sent, pour avoir discuté avec des élus Rassemblement National ces derniers jours et encore aujourd'hui, on sent une plus grande tension avec les journalistes, ou un regain de tension qu'on n'avait pas beaucoup vu ces derniers mois.
Oui, on la sent dans l'entourage de Marine Le Pen, et puis on la sent aussi en discutant directement avec Marine Le Pen. C'est vrai que jusqu'à maintenant, elle bénéficiait quand même d'un paratonnerre qui s'appelait Éric Zemmour, qui était celui peut-être qui attirait l'attention sur tout ce qui était polémique, etc. Bon, maintenant ils sont plus que deux, il y a Emmanuel Macron, il y a elle, et il se trouve que, en effet, le président sortant et son entourage ont quand même décidé de tirer à boulet rouge sur elle. C'est la stratégie clairement adoptée, donc elle se retrouve entre guillemets victime de ça. Elle en avait plus l'habitude.
C'est la campagne qui est dure. C'est la campagne d'entre temps qui est forcément plus brutale. Forcément les médias qui sont plus durs avec elle qu'ils n'étaient la semaine dernière.
Oui, mais c'est vrai qu'elle avait fait un peu une campagne hors des radars. C'est vrai qu'il y avait même médiatiquement, on peut le dire honnêtement, il y avait beaucoup moins d'attention médiatique sur elle. Il y avait beaucoup moins de journalistes qui la suivaient. À un moment, beaucoup plus de journalistes suivaient Éric Zemmour que Marine Le Pen parce que c'était un phénomène
D'ailleurs, on a vu ce soir des gens comme toi, Léopold, qui suivaient Éric Zemmour et qui qui ont été en renfort sur la couverture de Marine Le Pen. C'est arrivé pour plein de rédactions.
Absolument. Et d'ailleurs, en descendant du train tout à l'heure, l'attaché de presse, en rigolant, de Marine Le Pen, m'a dit « vous êtes revenu de chez Zemmour ». Voilà, donc c'est un peu ce genre d'accueil qu'on a eu tout à l'heure à la gare. Et après, fait notre travail, évidemment, on n'est absolument pas militant, on est journaliste et on suit toutes les actualités, quels que soient les bords politiques.
Je vais devoir vous laisser là parce qu'on doit être en direct dans 4 minutes, donc au bord du Rhône ici. Je vous laisse prolonger votre soirée et puis demain matin, allez sur RMC BFM TV depuis Avignon avec Apolline de Malherbe. Et ensuite, elle fait toute une journée de campagne dans le sud avec un programme de terrain. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et Loïc, si ça te dit, on fera un épisode soit dimanche, soit lundi pour que tu nous parles de sa retraite pour préparer le débat.
On fera ça.
Philippe, je me permets juste d'ajouter un truc par rapport à ce que Loïc disait. Tu parlais là de la matinale de demain. Elle fait aussi la matinale de France Bleu demain. Elle enchaîne ensuite avec un
débat. France Bleu Provence et France Bleu
carrément. Et du coup, je m'interrogeais juste sur. Effectivement, elle ne veut pas se fatiguer avant ce débat, notamment qui aura lieu la semaine prochaine. J'ai quand même l'impression qu'elle enchaîne beaucoup de choses là ces dernières heures et que. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Loïc, qui la suit vraiment régulièrement, mais elle a l'air quand même d'enchaîner beaucoup de séquences. Je sais pas s'il n'y a pas un danger particulier par rapport à ça.
Si, elle est plus fatiguée que ce qu'elle aurait espéré, ce qu'elle avait demandé à ses équipes. Après, il y a aussi un réalisme, c'est la campagne, c'est le second tour, elle y est, donc elle est obligée de tout donner. Et on verra ce que ça donnera pour le débat, mais oui, elle est plus fatiguée que ce qu'elle aurait espéré l'être.
Bon, on aura l'occasion d'en parler dans le prochain épisode, dans l'épisode qu'on fera dans quelques jours avec les... Je vous laisse tous les deux parce que je dois être à l'antenne vraiment incessamment sous peu. Salut
Philippe.
Merci.
Salut Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.